Je me réjouis d'être parmi vous ce matin. Moi, j'étais dans cette église il y a 10 ans. T'as quel âge ? 17 ans, j'avais ton âge. Donc j'avais 17 ans, 18 ans, peut-être aussi 19, c'est possible. Et je suis resté quelques temps dans cette église. Je faisais partie des responsables du groupe de jeunes aussi. Et je me réjouis d'être présent parmi vous. J'en reconnais certains. Je ne sais pas si vous me reconnaissez. Oui, un petit peu. Il y a la barbe qui a... C'est la barbe, hein ? Ouais. Il n'y a pas les rides encore, si ? Ça va venir, oui. Ça, c'est à cause du petit. Donc, je suis marié à Angélique, qui est ici, qui est une Alsacienne. Et nous avons un petit qui s'appelle Mathieu. Voilà, donc je suis parti, en fait, ces 10 dernières années, je suis parti en Alsace. J'étais en Alsace pour mes études. Je suis passé aussi un petit peu par Paris pendant un an. Je suis revenu en Alsace. Et j'étais toutes ces dernières années à la Porte Ouverte Chrétienne à Mulhouse, où j'étais responsable jeunesse avec Benjamin Peter Schmidt, je pense que vous connaissez. Donc j'étais à ses côtés. Et puis le Seigneur nous a appelés, mon épouse, mon fils et moi, à revenir en Franche-Comté. Nous avons quitté la Terre Promise. Vous savez c'est quoi la Terre Promise ? C'est l'Alsace. Où coule la choucroute et le Riesling, hein ? Donc on a quitté la terre promise pour revenir ici en Franche-Comté, terre de mission. Non, toutes les terres de France sont des terres de mission. Mais on était toutes ces dernières années à la Porte Ouverte et on a été extrêmement bénis. Vraiment. On a été bénis d'être dans cette église, on a appris beaucoup de choses, on a grandi, ça nous a fait beaucoup de bien. Et puis on a rejoint donc l'église d'Audincourt, l'église évangélique d'Audincourt, rue Charles-Allemand. Et on se réjouit d'être là-bas. On se réjouit d'œuvrer pour le Seigneur là-bas. Le Seigneur nous a clairement appelés à revenir ici. Et nous a appelés dans cette église à Audincourt. Et on a eu une multitude de confirmations de la part du Seigneur. C'était déjà une conviction intérieure. Je crois que quand le Seigneur parle, quand le Seigneur donne un appel, c'est déjà ici. C'est une conviction intérieure. Une vraie conviction qui vient de Dieu. Mais ensuite, je pense que c'est bon que cette conviction elle soit confirmée. Elle a été confirmée plusieurs fois. La première fois, c'est pour la vente de notre appartement. Ça s'est fait en un mois, je crois, en un mois. C'était pas gagné parce qu'on était dans un quartier où les appartements se vendaient, mais à un prix extrêmement réduit. Et ça aurait été compliqué si on le vendait à prix très réduit. On a réussi à le vendre sans avoir aucune perte, sans rien du tout, même en gagnant un chouïa. Pas autant que j'aurais voulu, mais bon... Mais un petit peu quand même, et puis ça a été la première chose. La deuxième chose, c'est trouver un logement ici, c'était pas gagné. Et vraiment, on est passé de déconfiture en déconfiture, jusqu'à ce qu'on trouve une maison qui nous plaisait, mais qui était hors budget. Mais vraiment hors budget. Et pourtant, il y avait beaucoup de travaux à faire, et on a passé beaucoup de mois à travailler avec mon père. On a réussi à négocier 30 000 euros, les amis. 30 000. Vous imaginez négocier 30 000 les gens nous ont dit, en fait, pourquoi on vous a laissé négocier autant ? Parce que c'était sentimental pour nous. Parce qu'on savait que c'était à vous qu'on devait donner cette maison. Deuxième confirmation. Troisième confirmation. J'étais encore... je travaille en tant que juriste et je travaillais sur Mulhouse. J'avais un CDI là-bas. Et dans la structure dans laquelle je travaille, si vous voulez, la même structure se retrouve dans un peu toutes les régions de France, mais elles sont toutes indépendantes. Il n'y a pas de lien les unes avec les ailes, il n'y a pas de pont qui se fait les unes avec les autres. Et j'étais sur Mulhouse, j'étais dans ce travail, et je disais, et je commençais, on avait déménagé déjà, et je faisais tous les déplacements, 50 minutes aller, 50 minutes retour. Je peux vous dire qu'à la fin de la semaine, j'en pouvais plus. Et tout d'un coup, une annonce... qui est publié, la même structure, mais en Franche-Comté, à Montbéliard. Le même poste, mon même poste, ce même poste, qui est ouvert à Exincourt. 10 minutes de voiture depuis chez nous. J'ai postulé une première fois. Ça s'est soldé par un échec. Alors là, on se dit, Seigneur, c'est pas possible, c'est le même poste, c'est mon même boulot, c'est à Exincourt, mais c'est pas possible. Et au fond de moi, j'avais cette conviction, il faut que tu continues à prier pour ça. C'était un non, hein. C'était un non catégorique. Mais au fond de moi, j'avais cette conviction qui me disait, il faut que tu continues à prier pour ça. Alors j'ai continué à prier pour ça, et je ne l'ai partagé à personne, je crois que je ne l'ai même pas dit à ma femme, je te l'avais dit. Je ne t'ai même pas dit. Et j'ai continué à prier moi-même, juste tout seul pour ça. Et tout d'un coup, on me rappelle, on me dit, on a trouvé personne, la seule personne qu'on avait éventuellement trouvée, finalement, ça ne se fait pas. Donc on vous rappelle, est-ce que vous seriez disponible pour venir ? Amen ! Bon. Les amis, je crois aussi que ce message, il va dans la droite lignée de tout ce qui était partagé. Il s'intitule « Ni par force, ni par puissance, mais ». Mais. Je faisais le constat il y a quelques années, je me posais la question, mais quelle force, quelle puissance, quel fruit on peut avoir dans nos actions d'évangélisation ? Je me posais cette question-là. Et je me disais, effectivement, il y a des terrains, vous êtes d'accord avec moi, où on va semer pendant des années, ce sont des terrains qui sont difficiles, mais est-ce que ce n'était pas le cas pour l'Église primitive ? Est-ce que l'Église des premiers siècles n'était pas dans un terrain qui était difficile ? Si, vous êtes d'accord avec moi. Il y avait des persécutions, il y avait des obstacles, il y avait des persécutions de la part des autorités juives, il y avait des persécutions de la part des autorités romaines, certains chrétiens ont été chassés, certains ont été emprisonnés, certains ont été tués. Il y avait des attaques spirituelles, de vraies attaques, où finalement les autorités de certaines villes ont essayé de chasser Paul, parfois de manière violente. Les situations étaient difficiles. Il y avait des obstacles, il y avait des défis qui étaient existants pour l'Église des premiers siècles comme pour nos églises à nous. Mais alors s'il y avait ces situations qui étaient difficiles, s'il y avait des obstacles, qu'est-ce qui nous manque à nous ? Église de 2000, on est en combien ? 2022 ? 2022, Église de 2022, si nos situations sont aussi difficiles comme elles pouvaient l'être auparavant, pourtant j'ai l'impression... C'est le constat que je faisais pour moi personnellement, qu'on avait tellement peu de résultats, tellement peu de puissance, tellement peu de force. Je crois que j'entends autour de moi, il y a une théologie qui vient et qui est de dire que finalement, plus les temps avancent, plus ils sont difficiles, plus l'Église qui restera sera un tout petit reste. Et on connaîtra tellement peu de conversions, tellement peu de choses, ça sera juste un tout petit reste qui sera sauvé. Je ne partage pas cette théologie-là. Je la partage absolument pas. Je crois que dans les derniers temps et dans les derniers temps où nous sommes, eh bien, il y aura des réveils et des réveils de grande ampleur. Mais est-ce qu'il se pourrait que, alors même qu'on constate notre faiblesse, finalement, à un moment donné, on s'est cru fort ? C'est paradoxal, hein ? De constater notre faiblesse, de voir que finalement, il y a peu de choses, mais est-ce que pour autant, on s'est pas cru fort à un moment donné ? Dans Zacharie chapitre 4, verset 6, il est dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » En d'autres termes, il n'est pas question de puissance humaine. Il n'est pas question de force humaine, mais il est question de l'Esprit de Dieu. Donnez-moi les meilleures stratégies, donnez-moi les plus beaux bâtiments, donnez-moi les meilleures formes d'évangélisation, les plus beaux réseaux sociaux, un prédicateur hors pair, un groupe de musique talentueux, donnez-moi une modernité formidable, des lumières qui attirent le regard, un son qui réjouit les oreilles, donnez-moi tout ça, il n'y aura aucune force, aucune puissance si l'Esprit de Dieu n'est pas au milieu de nous et n'agit pas au travers de nous. Amen. Il n'y aura aucune force, aucune puissance. Rien de tout ça ne peut nous donner de la force ou de la puissance si l'Esprit de Dieu n'est pas présent. Et on dit bien, bien volontiers « Amen à tout ça », vous êtes d'accord avec moi. Mais est-ce que nous le cherchons vraiment ? Ma question, c'est celle-là. C'est est-ce que nous le cherchons vraiment ? La première chose que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est cette puissance d'en haut. Première chose, la puissance d'en haut. Souvent, par raccourci, vous êtes d'accord avec moi, j'ai été, pendant des années, j'ai été investi dans des actions d'évangélisation, j'étais à Jeunesse pour Christ, et puis j'étais investi dans des camps d'évangélisation qui se faisaient l'été. Et vraiment, le constat, pourquoi je vous parle de ça ce matin ? Parce que c'est un constat que j'ai fait déjà de manière personnelle. Je ne me permettrais pas de jeter un constat comme ça si j'avais jamais été investi, juste un chouïa, dans des actions d'évangélisation. Mais j'ai été investi dans ces choses-là, j'ai même été responsable de ces choses-là. Mais le constat que je faisais, c'était l'absence, parfois l'absence de fruits, parfois des fruits, mais ce n'était même pas des fruits dans l'évangélisation, ça faisait plus de bien à ceux qui évangélisaient, et c'est bien, ça les encourageait, ça les formait, mais le but c'était de parler aux gens de Dieu, Le but, c'était d'avoir des fruits là-dedans, et on n'en avait pas. Et par raccourci, on dit souvent que notre mission est d'annoncer la bonne nouvelle. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous êtes d'accord ? Notre mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. La parole de Dieu ne dit pas exactement ça. La parole de Dieu dit que Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et les disciples faisaient de même. Notre but en tant qu'Église, c'est l'avancée du royaume de Dieu. La bonne nouvelle que nous annonçons, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ça veut dire que le royaume de Dieu, c'est une affaire de puissance et de confrontation de puissance. S'il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume des ténèbres. Le royaume de Dieu est une affaire de puissance parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Mais le royaume de Dieu, c'est une affaire de confrontation de puissance. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume des ténèbres. La proclamation du royaume de Dieu dans les évangiles s'accompagne toujours de trois choses. Vous avez déjà remarqué ça ? Lorsque Jésus annonçait le royaume de Dieu, lorsque les disciples annonçaient le royaume de Dieu, lorsque dans les actes l'Église annonçait le royaume de Dieu, ça s'accompagnait toujours de trois choses. Première chose, la guérison des malades. Deuxième chose, les démons qui sont chassés. Troisième chose, les cœurs qui se repentent et qui se convertissent. Pour ces trois choses-là, la puissance de Dieu est nécessaire. Amen. Pour la guérison des malades, la puissance de Dieu est nécessaire. Pour que des démons soient chassés, la puissance de Dieu est nécessaire. Pour que les cœurs se repentent et se convertissent, la puissance de Dieu est nécessaire. Moi, j'ai souvenir quand on était encore à la porte ouverte, quand on faisait nos soirées de jeunes, on a beaucoup de jeunes et on a beaucoup de jeunes qui ne sont pas chrétiens, qui viennent et qui viennent de tout arrière-plan différent. Pour vous expliquer à quel point il y a confrontation de puissance dans la proclamation du royaume de Dieu. Il y avait une jeune qui, pendant les temps de louange, manifestait des choses spirituelles qui étaient assez étonnantes et on s'est très vite aperçu qu'à un moment donné, il fallait chasser un démon. Et on avait pris ce temps avec cette jeune à part pendant un temps de jeunesse. On l'avait pris à part avec Benjamin et puis avec Thibaut. Et on avait commencé à prier pour elle. Et pourquoi je vous parle de ça ? Pour vous expliquer, pour vous décrire ça, pour vous expliquer pourquoi il y a confrontation de puissance. Cette jeune, alors que Benjamin était en train de prier pour elle, le démon commence à parler. Et il commence à dire, elle commençait à avoir le bras droit qui était paralysé. Et le démon commence à dire, tu vois le bras droit qui est paralysé, ça va commencer jusqu'au bras gauche, ça va continuer jusqu'au bras gauche. Il commençait à parler comme ça. Alors que Benjamin prenait autorité, que Thibaut et moi on prenait autorité, le démon qui continue à s'exprimer. Est-ce que vous connaissez un petit peu le témoignage de Benjamin Peter Schmidt ? Benjamin a eu pendant sa jeunesse, pendant qu'il avait 20-21 ans, de gros problèmes psychologiques. Et Dieu l'a libéré complètement de graves problèmes. Et pendant cette situation qu'on était en train de vivre, le démon qui commence à s'exprimer, qui commence à dire à Benjamin, « Mais tu sais, mais t'as pas été guéri. C'est pas Dieu qui t'a guéri. » Et là, tout d'un coup, de réaliser, de me dire, « Mais en fait, c'est ça le plan de l'ennemi. » Il y a une réelle confrontation de puissance. Parce que l'ennemi est en train de faire douter. L'ennemi essayait à cet instant-là de semer le doute dans le cœur de Benjamin pour que Benjamin ait une foi qui diminue. Et si sa foi diminuait, l'autorité qu'il avait allait diminuer. Et ce qui était en train de se passer, le fait de chasser un démon, n'allait pas avoir les fruits qu'on souhaitait que ça ait. Vous comprenez cette confrontation de puissance ? On est réellement là-dedans. L'autre chose, c'est que une démonstration de puissance, il faut qu'il y ait à un moment donné dans la proclamation de l'évangile, dans la proclamation du royaume de Dieu, une démonstration de puissance. Elle ne peut s'obtenir que par l'Esprit de Dieu. Elle ne peut pas s'obtenir par une façon humaine, par une manière d'agir humaine, par l'intellect humain. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que très souvent, on arrive à intellectualiser la foi ? C'est facile, hein, pour n'importe qui, hein. C'est très facile d'intellectualiser la foi. Parfois, on dit qu'on a la foi pour quelque chose, mais parfois, je crois que, alors même qu'on est en train de dire ça, qu'on a la foi pour quelque chose, cette foi, elle est ici, mais elle n'est pas là. Et c'est tout un cheminement qu'on doit avoir en prenant du temps avec Dieu, dans la lecture de sa parole, en expérimentant des choses avec Dieu, pour que la foi, elle descende de là
à là. Que ça soit une foi qui soit réellement puissante. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5, Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5, « Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de l'esprit et de puissance. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais votre foi a été fondée sur la puissance de Dieu. » Le but, c'est que la foi, elle soit fondée pas sur des raisonnements humains, pas sur des stratégies humaines, pas sur des plans comme on peut avoir en entreprise pour atteindre un objectif. On a des plans une année, à deux années, à trois années. Ça, c'est des plans purement humains. Il faut que nos décisions, nos actions, nos pensées, notre foi soient basées sur la puissance de Dieu, sur l'Esprit de Dieu. Amen. Dans Romains, chapitre 15, versets 18 à 19. « Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite pour moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. » Paul est en train de dire que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a proclamé, tous les fruits qu'il a vus, c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. Seulement par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est ce que dit ce passage que j'ai pris comme titre de cette prédication. Ce n'est ni par la puissance ni par la force humaine, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Je crois que la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu agissent ensemble. Vous êtes d'accord avec ça? Lorsqu'on voit dans Genèse, au tout début, dans Genèse chapitre 1, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous dit que l'Esprit de Dieu planait sur la terre. On est d'accord? Et tout d'un coup, une parole est prononcée. Et alors que cette parole est prononcée, et alors que l'Esprit de Dieu planait sur la terre et était déjà en train d'agir, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu agissent ensemble et la vie se crée. Je crois que c'est exactement la même chose qui se passe dans les cœurs quand ils se convertissent. Je crois que c'est la parole de Dieu qui est proclamée et le Saint-Esprit qui agit dans les cœurs et qui travaille dans les cœurs. Je crois que c'est la même chose pour la guérison des malades. Une parole de Dieu est prononcée, la parole de Dieu parle de la guérison des malades. La parole de Dieu est prononcée, c'est le Saint-Esprit qui agit dans le cœur et qui produit la foi nécessaire pour obtenir la guérison. Je crois que c'est la même chose pour les démons. Je crois que la parole de Dieu dit que le royaume de Dieu est plus fort que le royaume des ténèbres et que Jésus est venu pour libérer les gens qui sont captifs. Amen. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit agit au travers de nous pour libérer les gens qui sont captifs. L'Esprit parle. Vous êtes d'accord avec ça? Le Saint-Esprit parle et il donne des directions particulières à l'Église dans la mission qui lui est donnée. L'Église, avec un grand E, a une mission qui est de faire de toutes les nations des disciples. Mais je crois que chaque Église locale a une mission particulière. Et vous avez une mission particulière. Et je crois qu'il est bon d'écouter l'Esprit de Dieu parler pour savoir dans quelle direction aller. Je me souviens que lorsqu'on faisait un camp d'évangélisation un été, il y a de ça quelques années maintenant, on était dans le sud de la France. On était vers le Gros du Roi. Et puis on devait décider dans quelle localité on allait faire un spectacle de rue, où on allait aussi prêcher l'évangile. Et puis avec les responsables, on se réunit comme ça le matin même, et puis on prie vraiment pour les différentes localités pour savoir où on va aller. Et deux jours auparavant, on avait visité certaines villes. Et puis on avait visité notamment une ville qui s'appelait la Grande Motte, si vous connaissez. Et puis comment vous expliquer? Quand on est arrivé à la Grande Motte, quand on a regardé les lieux sur lesquels on allait pouvoir prêcher l'Évangile, quand on est arrivé là-bas, on avait cette sensation d'oppression, on n'était pas bien. Et puis on s'est dit, bon, pourvu qu'on n'aille pas là-bas finalement. Et puis le matin même, on prie pour ça, on prie pour savoir où aller. Et puis tout d'un coup, alors que je suis en train de prier, je reçois une image dans ma tête et... pour vous expliquer, je vois simplement une sphère particulière, une sphère particulière avec des ronds autour. Puis je me dis, bon, Seigneur, si ça vient de toi, je comprends absolument pas ce que tu me montres, quoi. Parce qu'une sphère avec des ronds autour, je ne vois pas de quoi tu me parles. Donc si ça vient de toi, il faut que tu m'aides, il faut que tu me dises ce que ça veut dire. Et puis dans la journée, je regarde sur Internet, je regarde des trucs sur les villes et je regarde quelque chose sur la Grande Motte. Et puis je tombe sur la page de la Grande Motte et je tombe sur le logo de la ville. C'était exactement ça. Je n'avais pas vu le logo de la ville. Hein. Le logo de la ville, il n'était pas affiché sur les panneaux de la ville quand on avait visité. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et je vois ce truc, ce logo, et je vois ce logo, en fait, c'était ce que j'avais vu en trois dimensions. Et je me dis, OK, il faut qu'on aille là-bas. Et qu'est-ce qu'on a bien fait d'aller là-bas ? C'était difficile. C'était très difficile. Mais j'étais tellement réjoui parce que j'ai pu discuter avec une dame et c'était exactement... Il fallait qu'on voie cette dame-là. Je ne sais pas ce que les autres ont vécu, mais pour moi, en tout cas, je sais qu'il fallait qu'on voie cette dame-là. J'ai pu avoir un cœur à cœur avec cette dame-là. J'ai pu lui annoncer la parole de Dieu. Et je suis certain qu'il s'est passé quelque chose. Alors, je crois que l'Esprit parle de manière précise. Est-ce que vous attendez à ce que l'Esprit de Dieu vous parle de ces manières-là ? Je crois qu'il faut s'y attendre. Je crois qu'il faut s'attendre à ce que l'Esprit de Dieu parle de cette manière-là également, au travers de sa parole, mais également de cette manière-là. Alors la puissance d'en haut, mais cette puissance-là, ce n'est pas juste une puissance qui agit seule. C'est ça qui est extraordinaire avec notre Dieu, c'est qu'il veut qu'on œuvre avec lui. C'est fou, hein ? De penser qu'en fait le Seigneur veut qu'on œuvre avec lui, on est ouvrier avec lui, on travaille avec lui. Le but, c'est que cette puissance d'en haut, elle vienne rencontrer quelque chose qui est un vase d'argile. Et on va s'arrêter un peu là-dessus. Dans Actes, chapitre 1, verset 8, il est dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. La chronologie, il faut qu'on reprenne un petit peu la chronologie avec les disciples. Lorsque Jésus était encore sur terre, à un moment donné, les disciples ont reconnu que Jésus était fils de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Ils ont vraiment reconnu que Jésus était le fils de Dieu. Et puis, dans Jean, chapitre 20, verset 22, vous pourrez le reprendre dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 22, il est dit que Jésus a soufflé sur eux et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Ils ont reçu le Saint-Esprit. C'était des gens qui étaient convertis. C'était des gens qui reconnaissaient Jésus comme le Fils de Dieu et ils avaient le Saint-Esprit. Mais dans Actes, chapitre 1, verset 28, il se passe autre chose. Dans Actes, chapitre 1, verset 8, pardon, il se passe autre chose. C'est une puissance qui est censée survenir sur eux. Je crois que ce que nous sommes et ce que nous avons ne suffit pas. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est étonnant de dire ça peut-être. Hein. Je crois que les dons et les capacités que tu as ne suffisent pas. Comment tu t'appelles ? Ouais, toi. Mathieu, presque comme mon fils. Mathieu, tu joues super bien à la batterie, soit dit en passant, vraiment très bien. C'est une bénédiction pour vous, hein ? Amen. Mathieu, le don que tu as à la batterie ne suffit pas. Si un jour tu veux avoir encore plus de force dans le royaume de Dieu, il te faut autre chose que juste tes dons naturels. Il te faut l'Esprit de Dieu en toi, rempli. Il faut que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Et au travers de ce que Dieu t'a donné, tu pourras toucher encore davantage les gens, même au travers de la batterie. Peut-être que tu n'utilises pas ta bouche pour parler de Jésus, mais au travers des dons que Dieu t'a donnés, tu vas pouvoir toucher des gens. Mais il te faut autre chose, parce que tes dons ne suffisent pas. C'est la même chose pour n'importe qui. Peut-être que tu as des facilités pour parler avec les gens. Tu es extrêmement sociable, c'est ça qu'on dit. Hein. Tu es extrêmement sociable, ça ne suffit pas. Tu peux être extrêmement sociable, tu peux parler facilement avec les gens, ça ne suffira pas. Tu peux faire très bien la cuisine. Tu peux faire très bien la cuisine, ça ne suffira pas. Mais je crois que si tu fais très bien la cuisine, mais qu'en même temps tu es rempli de l'Esprit de Dieu va pouvoir te dire t'aiguiller et te dire, ben, tu sais quoi, tu fais très bien la cuisine, tu fais très bien des repas. Et si tu utilisais ça pour bénir d'autres? Et si tu utilisais ça pour aller voir des gens? Et je crois que là, tu peux avoir des fruits encore plus profonds. Je crois que tout ce qu'on a, tous nos dons, toutes nos capacités naturelles, je crois que tous les projets qu'on peut faire, toutes les méthodes qu'on peut avoir, toutes les actions, toutes les œuvres qu'on peut mettre en place sont des choses qui sont bonnes. Et elles sont même parfois bibliques. Je veux dire, si demain vous allez évangéliser quelque part, c'est biblique, on est d'accord. Mais je crois pour autant que même si ces choses sont bonnes, il nous faut le conseil du Saint-Esprit. Et il nous faut être remplis du Saint-Esprit. J'ai beaucoup grandi à la porte ouverte et très souvent les pasteurs m'ont dit une chose qui au début ça m'interpellait beaucoup parce que j'avais pas ce raisonnement-là. Mais ils me disaient, tu sais Nicolas, il y a des choses que tu peux faire qui sont bibliques. Des choses pour Dieu que tu peux faire qui sont bonnes. Mais est-ce que le Saint-Esprit t'a demandé de les faire de cette manière-là? Ça c'est intéressant. Hein, je ne suis pas certain que tout le monde est d'accord avec moi là ce matin. Mais je vous le dis quand même. Je crois qu'il y a des choses qui sont bibliques. Je crois qu'il y a des choses qui sont bonnes. Je crois qu'il y a des choses qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Mais est-ce que le Saint-Esprit vous a dit que c'est le moment maintenant de les faire, qu'il faut les faire de cette manière-là et aller ici et aller là? Il faut relire le livre des Actes, les amis. Le Saint-Esprit les amenait à tel endroit. Le Saint-Esprit leur disait de faire ci. Le Saint-Esprit leur disait de faire ça. Le Saint-Esprit les empêchait de faire ci ou de faire ça. Je veux dire, quand Paul doit aller quelque part prêcher la bonne nouvelle, c'est une chose qui est biblique. Quand il y a marqué que le Saint-Esprit l'a empêché. Le Saint-Esprit l'a empêché. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, qu'on doit être en connexion encore plus intime avec le Saint-Esprit pour savoir exactement ce qu'on doit faire. Nous avons besoin de cette puissance du Saint-Esprit sur nous, qui nous permet d'aller au-delà, d'aller plus loin, d'aller plus profondément. Les disciples avaient compris ça, parce que quand Jésus est remonté au ciel et qu'il leur a dit « Ne partez pas avant que vous ayez reçu la promesse que je vous ai faite, la promesse du Saint-Esprit », les disciples avaient compris ça, ils se réunissaient chaque jour dans la chambre haute pour prier et pour attendre ça. Pour attendre ça. Dans Jean, évangile de Jean, chapitre 3, versets 7 et 8, il est dit « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en va ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Je crois que naître de l'Esprit, être né de l'Esprit, être rempli de l'Esprit, à un moment donné, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'un homme qui est né de l'Esprit est aussi insaisissable que le vent. Il y a des choses qu'il fait que les autres ne peuvent pas comprendre. Il y a des choses qu'il fait que les autres ne peuvent pas comprendre. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Il en va ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit agit à travers toi, d'une manière étonnante, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Que le Saint-Esprit agisse au travers de toi d'une manière étonnante, d'une manière que tu ne peux pas expliquer, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Si ça t'est pas encore arrivé, mon frère, ma sœur, pose-toi la question. Parce que Jésus est en train de dire que l'Esprit agit comme le vent. Et des fois, on ne sait pas d'où il vient, où il va, pourquoi il fait telle chose. C'est toujours conforme à la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de ça. Quand on parle du Saint-Esprit, parfois certaines personnes ont peur qu'il y ait des choses bizarres qui se passent. Mais s'il y a des choses qui se passent et qui sont contraires à la parole de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est tout. Soyons simples. Mais par contre, n'enfermons pas le Saint-Esprit dans une boîte. Parce que le Saint-Esprit agit comme il le veut. Lorsque Élisée dit à Naaman de se plonger 7 fois dans le Jourdain, je veux dire, il est malade, il vient voir Élisée, il a la lèpre, il vient voir Élisée et il lui dit, mais Élisée, qui est inspiré par l'Esprit de Dieu, lui dit de se plonger 7 fois dans une rivière. Je veux dire, ben moi, si je vais voir quelqu'un, je sais qu'il a un don de guérison, j'attends qu'il m'impose les mains, et puis voilà, quoi. me plonger 7 fois dans de l'eau, bon. Mais pourtant, Élisée lui a dit de faire ça, parce qu'il était inspiré par l'Esprit de Dieu. Lorsque Jésus a un aveugle devant lui, et qui prend sa salive avec de la terre, qu'il en fait de la boue et qui lui applique sur les yeux, mais il l'a fait parce qu'il était inspiré par l'Esprit de Dieu, je ne vous dis pas ça de faire ça demain, hein, on s'entend, mais il l'a fait parce qu'il était inspiré par l'Esprit de Dieu. Lorsque, un autre passage qui est hyper intéressant dans Actes, chapitre 16, versets 16 à 18, « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en faisant de la divination, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit ça pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. C'est un passage hyper intéressant parce que je me demande comment on aurait réagi. Je veux dire, il y a quelqu'un qui vous suit. Alors, je conçois qu'au bout d'un moment, ça commence à être épuisant. Quelqu'un derrière vous qui crie tout le temps. Mais ce qu'elle criait, c'était biblique. Mais Paul, à cet instant, a ce discernement de savoir que son fond, lorsqu'elle parle, son fond est démoniaque. Il faut avoir ce discernement-là, hein, de se dire que son fond est démoniaque. Mais ce discernement-là ne peut venir que de l'Esprit de Dieu. Ce fond-là, pourquoi je vous donne ces exemples ? Pour vous dire que l'Esprit de Dieu nous dépasse. Il est impossible d'avoir une théologie parfaite du Saint-Esprit, il est impossible de cadrer le Saint-Esprit, de dire ça plus ça égale ça. Bien entendu que vous avez la parole de Dieu comme repère. La parole de Dieu nous permet de savoir ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu ne doit pas être enfermé dans une boîte. Et cette puissance, l'Esprit de Dieu, doit à un moment donné se retrouver en nous. Et nous devons être ce que j'appelle un vase d'argile. Déjà, c'est un vase. Est-ce que tu as un vase ce matin ? Un vase, c'est quoi ? C'est un réceptacle. Un vase, c'est un réceptacle. Un vase, c'est, tu y mets quelque chose dedans, tu y mets de l'eau, tu y mets tout ce que tu veux, mais ça doit contenir quelque chose. Un vase, s'il contient rien, c'est peut-être beau, mais il sert à rien. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est beau, mais il sert à rien du tout. Alors il doit contenir quelque chose. Est-ce que tu es prêt à te laisser remplir par le Saint-Esprit ? Remplir par le Saint-Esprit. Un vase d'argile. Pourquoi argile ? Parce que c'est une matière qui est modelable. Et est-ce que tu es modelable entre les mains du Seigneur ? Ou est-ce que toutes ces années ont commencé à te rendre dur ? Est-ce que toutes ces années ont commencé à te rendre dur ? Pas parce que tu as vécu des choses difficiles, hein. Tu sais, on peut être dur parce que, à un moment donné, on s'enorgueillit. Parce qu'on a l'impression de tout savoir. Mais si tu as l'impression de tout savoir, ça veut dire que tu es déjà rempli. Ne t'attends pas à ce que le Seigneur te remplisse, t'es déjà plein. Et à un moment donné, il faut enlever des choses. Mais le Seigneur doit te remplir et tu dois être ce vase d'argile, ce vase qui est modelable. J'ai lu que l'argile hydratée est malléable. L'argile, quand elle est hydratée, elle est malléable. Elle peut être mise en forme. Tu peux en faire ce que tu veux. Après séchage, elle devient solide. Mais elle ne restera solide de manière permanente qu'après un passage au four. C'est-à-dire que, mon ami, il te faut du feu. Tu dois être modelé par le Seigneur et pour garder la forme qu'il veut que tu aies, tu dois passer par le feu. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut agir de cette manière-là. Amen. J'aimerais conclure sur un petit extrait. C'est un extrait d'un livre qui parle d'un réveil qui a lieu dans les îles Hébrides. Les îles Hébrides, c'est côté Angleterre, Écosse, dans ce coin là-bas. Je ne suis pas fort en géographie, mais c'est par là. Un réveil qui a eu lieu dans les îles Hébrides, et je vous lis ce qu'il y a marqué. Parmi ceux qui se convertirent la nuit suivante se comptait un garçon de 15 ans. Il devint une aide remarquable dans le réveil. Ce jeune garçon devint un guerrier de la prière, un guerrier de première ligne. Un jour, Duncan, un prédicateur, entra dans sa maison et demanda s'il y avait quelqu'un. Il trouva ce garçon à genoux dans la ferme avec la Bible ouverte devant lui. Lorsqu'il fut interrompu, le garçon expliqua calmement « Excusez-moi un petit peu, monsieur Campbell, je suis en train d'avoir une audience avec le roi. » L'une des effusions de l'esprit les plus intenses de tout le réveil survint lorsqu'on lui demanda de prier. Dans le poste de police à Barvas, une nuit, il se leva, frappa simplement des deux mains et prononça un mot « Père ». Tout le monde se fondit en larmes alors que la présence de Dieu envahissait la maison. En Kalnish, il pria jusqu'à ce que la puissance de Dieu prit possession de ceux qui étaient morts dans leurs péchés, les transformant en pierres vivantes pour l'Église de Jésus-Christ. Mais l'illustration la plus remarquable de l'onction de Dieu sur lui eut lieu à Bernera, une petite île au large de la côte de Lewis. Le prédicateur Duncan assistait à un service de communion. L'atmosphère était lourde. Et la prédication difficile. C'est pourquoi il demanda qu'on envoyât de Barvas quelques hommes pour le soutenir dans la prière. Ils prièrent, mais le lien spirituel persistait si fortement qu'en plein milieu de sa prédication, Duncan s'arrêta de prêcher. Juste à ce moment, il remarqua ce garçon, visiblement touché sous un fardeau beaucoup plus profond que lui en faveur des âmes. Il pensa, mais ce garçon est en contact avec Dieu et vit plus près de lui que moi.
Il faut avoir de l'humilité pour dire ça. Je ne sais pas quel âge avait ce prédicateur, mais il faut avoir de l'humilité.
Ainsi, s'appuyant sur le pupitre, il dit « Donald, peux-tu nous conduire dans la prière ?» Le garçon se leva sur ses pieds et dans sa prière fit référence au 4e chapitre d'Apocalypse qu'il avait lu le matin même. « Ô Dieu ! J'ai l'impression de contempler à travers la porte ouverte. Je vois l'agneau au milieu du trône avec les clés de la mort et de l'enfer à sa ceinture. » Il commença à sangloter, puis levant les yeux en direction du ciel, il s'écria « Ô Dieu, il y a de la puissance là-bas, relâche-la » Dans la force d'un ouragan, l'Esprit de Dieu balaya le bâtiment et les portes, retenant les eaux du ciel qui s'ouvrirent. L'église ressemblait à un champ de bataille. D'un côté, beaucoup étaient prostrés sur leurs sièges, pleurant et soupirant. De l'autre côté, certains lançaient les bras en l'air avec émotion, dans une posture rigide. Dieu était venu. Amen. C'est pas incroyable ? Est-ce que vous aspirez pas à ça ? Si, hein ? Si, moi j'aspire à ça. J'aspire à ce que l'Esprit de Dieu soit tellement présent qu'il se passe des choses comme ça. L'Esprit de Dieu n'agit jamais de la même manière, mais je m'attends à voir un réveil. Amen. Est-ce que vous attendez à ça? Je m'attends à voir un réveil dans le pays de Montbéliard. Si le Seigneur nous a appelés ici, je sais que ce n'est pas un hasard. Je sais ce qu'il a déposé sur mon cœur. Je sais ce qu'il m'a montré. Je sais ce qui arrive. Les amis, il faut qu'on soit prêt pour ça. Mais pour ça, ce que nous sommes ne suffit pas. Ce que nous sommes ne suffit pas. Ce que j'ai ne suffit pas. J'ai besoin que l'Esprit de Dieu me remplisse. Les amis, ça fait des années maintenant que j'étais à la porte ouverte, je suis un charismatique convaincu. Je ne sais pas exactement, ou en tout cas je sais ce qui était enseigné il y a quelques années, je ne sais pas ce que vous enseignez aujourd'hui. Là, je vous livre mon cœur. Je crois qu'il y a deux expériences. Je crois que lorsque nous nous convertissons, le Saint-Esprit habite en nous et nous sommes sauvés. Amen. Je crois qu'il existe une deuxième expérience, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ma conviction personnelle. Après, vous irez voir les anciens, ok ? Moi, c'est ma conviction personnelle. Je crois qu'il y a une deuxième expérience, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je l'ai vécu pour moi-même. Les amis, j'étais un détracteur du baptême du Saint-Esprit. Je n'y croyais pas. Vraiment. Lorsque je suis arrivé à la porte ouverte, j'ai visité différentes églises, je suis arrivé à la porte ouverte, et ça m'embêtait franchement parce que j'étais d'accord avec tout ce que disaient les prédicateurs. Mais ça m'embêtait franchement. Et puis, j'étais quand même pas à l'aise avec ce qui se passait. Je n'étais pas à l'aise avec les prophéties, je n'étais pas à l'aise avec les paroles de connaissance, je n'étais pas à l'aise avec le parler en langue, le chant en langue, je n'étais pas à l'aise avec tout ça. Et je me souviens que Bible en main, j'étais avec un ami de la porte ouverte et je discutais avec lui. Et Bible en main, je lui disais, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce qu'on vit dans notre église à l'APO, c'est pas bon. Regarde, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et à une soirée à la porte ouverte, on avait un temps de louange et c'était vraiment merveilleux, un temps de louange magnifique. Et puis, on est en train de louer tous ensemble. Et tout d'un coup, tout ce que je sais, c'est que je me retrouve à genoux dans la rangée où j'étais. J'étais à genoux et j'ai commencé à parler en langue. Et j'ai commencé à chanter en langue. Mais imaginez un instant, pour moi, je ne peux pas vous dire que j'étais dans un état d'esprit opposé à ça, parce que je crois que si j'étais dans un état d'esprit opposé, Dieu ne l'aurait pas fait. Mais en tout cas, j'avais de sérieux doutes. Je ne peux pas vous dire que je n'avais pas des doutes, j'avais des doutes. Mais j'étais là, dans cette rangée, à genoux, en train de parler en langue. Et à un moment donné, je me souviens, je me suis relevé, rassis sur ma chaise, je me suis tourné vers ma voisine, je me tourne vers elle et je lui dis, je crois bien que j'ai parlé en langue. Compliqué pour moi de dire ça quand même. C'était très compliqué pour moi. Il faut vraiment comprendre mon cheminement, il faut comprendre l'état d'esprit dans lequel j'étais. J'étais en train de vivre quelque chose qui s'opposait à tout ce que je pensais croire, à tout ce que je pensais être correct, juste, biblique. Mais à partir de cet instant-là, ma vie de foi a été complètement différente. À partir de cet instant-là, ma vie de foi a été complètement différente. J'ai connu une profondeur que je n'avais jamais connue. J'ai connu une profondeur dans la louange, dans l'adoration que je n'avais jamais connue. J'ai connu une autorité que je n'avais pas. Et quand j'allais évangéliser, je n'allais pas dans le même état d'esprit. Je m'attendais à voir des choses que je ne m'attendais pas à voir avant. Et j'avais une autorité que je n'avais pas et que je n'aurais jamais imaginée. Les amis, c'est ça qui est sur mon cœur et c'est ça qui est sur mon cœur pour... mon église à Audincourt, mais c'est ça qui est sur mon cœur pour le pays de Montbéliard, parce que je crois que le pays de Montbéliard a désespérément besoin du Saint-Esprit. Amen. Avec ça, on est tous d'accord, normalement. Le pays de Montbéliard a désespérément besoin du Saint-Esprit, alors on va prier ensemble. Vous êtes d'accord? On peut se lever ensemble. Seigneur Jésus, on vient devant toi et je te prie vraiment pour l'église de Popin. Je te remercie pour cette église. Je te prie déjà, Seigneur, de les encourager. Je sais qu'ils en ont besoin. Je sais, Seigneur, et je te prie notamment pour ceux qui sont en direction de cette église. Je te prie, Seigneur, de fortifier leur foi et de renouveler leur joie, de renouveler leur paix, de renouveler leur zèle. Je sais, Seigneur, qu'ils ont besoin de ça. Seigneur, merci parce que tu... Je crois qu'il y a une parole particulière pour ceux qui sont en direction de l'église. Je crois que le Seigneur vous dit, je suis avec vous. Je veux vous encourager. Je suis avec vous, je sais par quoi vous êtes passé, je connais les lassitudes, je connais les moments de doute, je connais les moments de creux, je connais tout ça, j'étais avec vous. Mais je suis avec vous, c'est la parole pour vous, je suis avec vous, je ne vous abandonne pas. Jésus, vraiment merci parce que tu es là au milieu de nous, merci pour cette église, je te prie d'amener cette église plus loin en toi. Seigneur Jésus, c'est tout ce que nous voulons. Aller plus loin avec toi. Je te prie, Seigneur, que tu remplisses de ton Saint-Esprit ceux qui sont présents. Seigneur, que tu remplisses de ton Saint-Esprit cette église. Que tu la remplisses jusqu'à déborder. Seigneur, c'est avec la présence de ton Saint-Esprit que nous pourrons accomplir ce que ta parole veut. C'est avec la présence de ton Saint-Esprit que nous pourrons voir des guérisons. Que nous pourrons voir des malades être guéris, que nous pourrons voir des personnes être libérées de leurs liens et de leurs chaînes. C'est avec ton Saint-Esprit que nous pourrons avoir une prédication efficace. C'est avec ton Saint-Esprit que dans la louange, nous pourrons toucher le bord de ton vêtement, être devant ton trône, être à genoux devant toi, libre et libéré de toute culture humaine qui nous entraverait d'entrer dans ta louange. Seigneur, c'est par le Saint-Esprit que toutes ces choses se font. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens remplir ceux qui ont un cœur où ils veulent être remplis par toi, viens les remplir. Il est impossible que tu ne viennes pas remplir un cœur qui le veut et qui le cherche. C'est impossible parce que tu le promets dans ta parole. il y a une promesse dans ta parole sur le Saint-Esprit. Mais je crois, Seigneur, qu'il faut s'attendre à la réalisation de cette promesse. Je m'attends, Seigneur, à ce que dans cette Église, qu'il y ait plusieurs baptêmes du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Des baptêmes du Saint-Esprit qui conduiront l'Église encore plus loin. Je te prie particulièrement encore une fois pour les dirigeants de cette Église, qu'ils soient remplis de ton Saint-Esprit, baptisés de ton Saint-Esprit. Seigneur, que la direction qu'ils donnent vienne de toi. Je te prie vraiment pour ça. Bénis, Seigneur, la jeunesse de cette Église aussi. Je te prie de les remplir de toi, qu'ils soient une lumière là où tu les as placés, qu'ils soient empreints de ta marque, Seigneur, de ta marque à toi. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi encore. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure près de moi. Ennemi sans l'ombre rôde autour de moi, accablés par leur nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Jésus, merci parce que tu réponds à cette soif. Merci parce que tu dis à la Samaritaine qu'en toi, il y a une source de vie et que c'est toi qui la donnes à ceux qui la désirent. Et que cette source de vie deviendra en nous une source de vie qui rejaillira jusque dans l'éternité. Jésus, tu promets qu'en nous, il peut y avoir une source intarissable et c'est celle de ton Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit en nous a une incidence autour de nous. Parce que si ça rejaillit jusque dans l'éternité, ça veut dire que ça rejaillit autour de nous. Jésus, je te prie pour que cette soif soit étanchée chez plusieurs de cette Église. Merci Jésus pour ta présence. Amen. Amen.